Vous écoutez, on lit pour vous.
Tel jeune préoccupé par une augmentation de la détresse psychologique chez les adolescents. Un texte d'Alex Fontaine paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir. Anxiété, dépression, isolement. Tel jeune constate une aggravation préoccupante de la détresse psychologique chez les adolescents. Des données publiées le lundi 9 décembre 2024 par l'organisme montrent que cette détresse se fait aussi ressentir chez les parents et les jeunes enfants. Plus de 40% des quelque 30 000 requêtes reçues par l'organisme en 2024 étaient liées à la santé mentale, affirme l'OBNL dans un communiqué. La situation est d'autant plus alarmante considérant que les demandes d'aide liées aux idées suicidaires ont quasi doublé en 5 ans, passant de 8,4% en 2019 à 15% depuis janvier 2024. L'organisation rappelle les résultats d'une étude de 2023 qui estimait que plus de la moitié des adolescents attendent que leurs problèmes deviennent vraiment graves avant de demander de l'aide, et que près de 90% d'entre eux tentent d'abord de résoudre leurs problèmes par eux-mêmes. Il faut inciter les jeunes à demander de l'aide plus rapidement, soutient la directrice générale Annie Papagiorgiou. Il est probable que le nombre de jeunes vivant de la détresse au Québec soit encore plus élevé que ce que montrent les chiffres actuels. Les parents et les enfants aussi touchés. L'organisme vient en aide aux adolescents de 12 à 17 ans et à leur entourage. Même s'il ne cible pas cette tranche d'âge, il a enregistré plus de 1000 demandes provenant des 6 à 11 ans cette année, soit 3 fois plus qu'en 2019. Cette tendance en hausse est inquiétante et soulève des questionnements concernant l'état de santé mentale de la prochaine génération qui entre dans la période turbulente de l'adolescence, écrit tel jeune. Du côté des parents, l'inquiétude est palpable. Le service tel jeune parents représentait 16% des interventions totales de l'organisme en 2019. 5 ans plus tard, cette proportion atteint 30%. Ce serait plus de la moitié des adolescents qui consultent leurs parents d'abord en cas de problème, ce qui leur ajoute une charge émotive significative et augmente leur sentiment d'impuissance. Tel jeune note que la complexité croissante des cas, le temps nécessaire pour les interventions par écrit et le besoin de couvrir davantage de quarts de soir et de nuit posent des défis importants. Nous devons absolument renforcer notre capacité à répondre rapidement et efficacement à ces besoins grandissants, soutient Mme Papagiorgiou. C'était tel jeune préoccupé par une augmentation de la détresse psychologique chez les adolescents, un texte d'Alex Fontaine paru le 9 décembre 2024 dans Le Devoir.
Le miracle est arrivé. Un texte de Katia Gagnon paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Isabelle Gauthier n'est pas une lectrice de médias. Elle n'est pas non plus une habituée des réseaux sociaux. En fait, elle utilise peu son téléphone portable, sauf pour prendre des photos. En ce jour de décembre 2021, elle fermait les fenêtres laissées ouvertes sur le navigateur de son téléphone. Et c'est dans ce geste machinal où on envoie des pages web mourir vers le haut que le miracle est arrivé. Appelez ça Dieu, le destin, le hasard, comme vous voulez, moi, j'ai décidé d'appeler ça un miracle. L'œil d'Isabelle a été accroché par une photo. Un petit garçon en fauteuil roulant. Il avait un manteau bleu. Il était photographié de dos, mais on le sentait souriant, regardant une jeune femme masquée, pandémie oblige, qui jouait du ukulélé. Le doigt d'Isabelle s'est arrêté. Elle a lu l'article, mon article, dont le titre était « Un miracle pour Noah ». J'y racontais l'histoire de Noah, un petit garçon de 10 ans qui vivait depuis la moitié de sa vie au centre de réadaptation Marie-Enfant. Il avait été rescapé d'un milieu familial toxique par la Direction de la protection de la jeunesse, DPJ, alors qu'il n'était qu'un bébé. Sa mère n'en voulait plus. Qu'a-t-il vécu exactement dans cette famille? Ça ne sera jamais clair. Ensuite, il avait été placé en famille d'accueil. Après 3 ans, la DPJ a réalisé que le milieu n'était pas adapté à Noah. Il faut dire que le petit était un cas lourd. On parle d'un enfant multi-handicapé qui s'alimentait par gavage, dont la croissance était famélique, affligé d'un problème hormonal, d'une cécité partielle et d'une déficience intellectuelle. Il a emménagé à Marie-Enfant. À l'époque, c'était sa place. Il avait besoin de soins. Là-bas, il a rencontré Amélie Tremblay. L'éducatrice a été affectée presque à temps plein à son cas. Elle a redonné à cet enfant brisé le goût de vivre. C'est ce que j'écrivais dans l'article. Mais après 3 ans de réadaptation, Noah était prêt à sortir de l'hôpital. Le milieu hospitalier ne lui permet pas d'atteindre son plein potentiel, jugeait la DPJ. Le cas crève-cœur de cet enfant a entraîné une mobilisation sans précédent des services sociaux. Pendant 2 ans, on a cherché une famille pour Noah, en vain. C'était le but de mon reportage en 2021, lancer une bouteille à la mer pour trouver une famille. Si on ne trouvait pas de parents adoptifs, Noah allait demeurer à l'hôpital jusqu'à sa majorité, puis il allait vivre en CHSLD. Une perspective d'une tristesse infinie. Et puis le miracle est arrivé. Quelques semaines plus tard, une fenêtre s'est ouverte sur le cellulaire d'une dame qui ne lit pas les journaux, qui ne consulte pas les réseaux sociaux, qui n'utilise presque pas son cellulaire. Cette fenêtre semblait donner sur le web. En réalité, elle donnait sur l'avenir. L'avenir de Noah. Après avoir lu l'article, Isabelle a tout de suite su que cet enfant serait le sien. Isabelle Gauthier et Pierre Couture comprenaient parfaitement la situation de Noah. Ils ont eux-mêmes un fils handicapé, Xavier. Il a 28 ans. Il souffre de paralysie cérébrale sévère depuis sa naissance à la suite d'une erreur médicale. Si j'avais eu une césarienne, Xavier serait normal, résume Isabelle. Mais voilà, il est né un 31 décembre. L'équipe médicale n'était pas disponible pour une césarienne. Isabelle et Pierre ont donc eu un fils qui est en fauteuil roulant, qui ne parle pas, qui doit être gavé, qui vit avec une stomie. Toutes les nuits depuis près de 30 ans, il se lève pour le tourner de côté ou changer sa culotte d'incontinence. Pierre a toujours voulu un autre enfant. Isabelle, non. Jusqu'à ce jour de décembre 2021. 25 ans plus tard, je lui ai dit « Veux-tu toujours un autre enfant ?» Il m'a tout de suite dit « Appelle !» C'était dimanche soir. J'ai appelé, j'ai laissé un message. Vous écoutez « Le miracle est arrivé », un texte de Katia Gagnon, paru le 26 décembre 2024 dans la presse. Une trentaine de familles ont fait de même. Quand on s'est rendu compte qu'il y avait d'autres candidats, on était stressé. On s'est mis à avoir peur de ne pas l'avoir, dit Pierre. Le processus de sélection a duré des mois. À la fin, il n'est resté qu'Isabelle, Pierre et Xavier. On avait trouvé les perles rares, résume José Lemieux, chef du service adoption à la DPJ du CIUS, du centre-sud de l'île de Montréal. Ensuite, on a commencé le long processus d'apprivoisement de Noah. Un enfant dominé par l'anxiété, qui avait peur de tout, facilement dépassé par toute émotion. Il parlait peu. Dès qu'on l'a vu, on est tombé en amour, c'était notre fils, dit Isabelle. Les aspirants parents et les services sociaux ont pris leur temps. La future nouvelle famille a visité Noah 2 ou 3 fois par semaine pendant près d'un an. Du domicile des Gauthier-Couture au centre de réadaptation Marie-Enfant, c'est 1h56 de route par temps clair et sans bouchon de circulation, dit Google Maps. Aller-retour, près de 4 heures. Pierre et Isabelle ont fait ça 2-3 fois par semaine, été comme hiver. Très rapidement, ils ont inclus Xavier dans les visites. « Ça a été ça, le déclic », dit Isabelle. Noah a tout de suite connecté avec Xavier. Noah a vu le jeune homme en fauteuil roulant comme lui. Rapidement, il a tout voulu faire avec Xavier. « Veux-tu que je te fasse un câlin comme je fais à Xavier ?» lui a demandé Pierre lors d'une de ses visites. Noah a dit oui. Il a pris le petit dans ses bras. Il riait aux éclats, émerveillé de voir dehors par la fenêtre. Tout le monde braillait, raconte Isabelle. Dernière étape, Isabelle et Pierre ont présenté la chienne Kira à Noah, puisque Kira et sa fille Sacha font partie de la maisonnée Gauthier Couture. Sur le terrain de l'hôpital, les deux ont fait connaissance. Kira a fini par poser sa grosse tête de rottweiler sur la petite main de Noah. Et puis, Noah est allé coucher un soir dans ce qui deviendrait sa nouvelle maison. Ça s'est bien passé. Une nuit, deux nuits. On y est allé progressivement. Un soir, Pierre lui a fait la grande demande. « Voudrais-tu que je sois ton papa ?» Noah a dit oui tout de suite. En janvier 2023, il a quitté définitivement l'hôpital et en octobre 2024, 3 ans après la parution de mon article, il a été légalement adopté par le couple. « Il a fleuri dans sa nouvelle famille », résume José Lemieux. « Il parle ». Il se déplace dans son fauteuil. Il va à l'école seul, en autobus scolaire. Il est au secondaire, dans une classe spécialisée. Le certificat d'adoption est affiché au mur de la chambre de Noah avec son vrai nom que nous ne pouvons pas révéler parce qu'il a été sous protection de la DPJ. Noah, c'était le prénom d'emprunt que je lui avais donné dans mon article. Un prénom qu'Isabelle et Pierre, qui l'ont appelé ainsi pendant des mois avant de le rencontrer, ont fait ajouter à son patronyme légal. Mon faux prénom a donc fait son entrée dans la réalité. Noah demeure hanté par la peur de l'abandon. Tous les jours, plusieurs fois par jour, il demande à Isabelle « C'est pour toute la vie, hein ?» C'est pour ça que le certificat, avec le nom du juge, est affiché dans sa chambre. C'est la preuve officielle que tout cet amour, c'est un contrat à vie. Pendant notre visite à Isabelle et Pierre, Noah est revenu de l'école. Il y avait beaucoup de monde dans sa maison. Il a été envahi par l'émotion. Il n'a pas été capable de venir me voir. Sur la caméra de sa chambre, qui retransmettait l'image sur le téléphone d'Isabelle, on les a vus tous les trois. Pierre, couché à côté de son fils dans le lit, qui lui caressait le dos. Isabelle, assise au bord du lit, qui lui racontait des blagues pour le faire rire, et Noah, qui riait à travers ses larmes. Ce que nous regardions en noir et blanc, sur ce petit écran, c'était une bulle d'amour pur, de chaleur humaine, de bonheur partagé, une vraie famille. C'est ça que Noah n'aurait jamais pu avoir à l'hôpital, malgré toute la bonne volonté des soignants. Je suis sorti de cette maison en me disant que dans le monde, il y a du laid, du dur, du triste. Il y a l'Ukraine, il y a Gaza, il y a les lancers de boue de la politique, les itinérants pelotonnés dans des portiques glaciales. Il y a les fanatiques, les narcissiques, les tireurs fous et les enragés du volant. Et puis, il y a des maisons comme celle-ci, où 2 jeunes hommes en fauteuil roulant sont heureux. Ils s'éclaboussent l'été dans la piscine, ils vont nourrir les chevreuils avec Pierre, ils se font border avec amour tous les soirs, et quand ils se réveillent la nuit, il y a quelqu'un là pour les réconforter. Dans le monde, il y a aussi des Pierre et des Isabelle. En fait, c'est eux. Le vrai miracle. C'était « Le miracle est arrivé », un texte de Katia Gagnon paru le 26 décembre 2024 dans La Presse.
les jeunes boomers, très loin de la génération privilégiée, un texte de Marc Tremblay, paru le 16 décembre 2024 dans la presse. Il est plus facile de briser un atome qu'un préjugé, disait Einstein. Le sort enviable des boomers me semble faire partie de la catégorie des croyances ou opinions préconçues souvent imposées par le milieu ou l'époque, la définition de préjugé selon le Robert. J'appartiens à la génération des boomers. Je suis arrivée sur le marché du travail au début des années 1980, au milieu de la pire récession depuis la crise des années 1930. J'avais prématurément quitté l'université parce que je n'arrivais pas à me décider sur la bonne trajectoire qui me permettrait de dénicher un emploi convenable. La plupart de ces trajectoires me paraissaient mener à un cul-de-sac. J'avais, par exemple, un grand intérêt pour l'enseignement, mais les emplois de professeurs, du primaire à l'université, étaient aussi rares que les logements abordables en 2024. En fait, toute la fonction publique était verrouillée à double tour, car les plus vieux occupaient tous les postes. En l'espace d'un an, de 1981 à 1982, le chômage des jeunes de 15 à 24 ans avait presque doublé. J'ai retrouvé dans les archives de la presse une série de textes intitulés « La génération sacrifiée » qui remonte à novembre 1982. Les chiffres dévoilés étaient stupéfiants. 187 000 jeunes de 15 à 24 ans étaient en chômage à la fin de l'été. 23,6% contre 13,8% à la même période l'an dernier. Sur les 110 915 étudiants qui se sont présentés cet été dans les 700 postes de placement étudiants, seulement 8591 ont trouvé un emploi. Un nombre incalculable de jeunes ne voient plus le jour où ils pourront se trouver un premier emploi, raconte le journaliste Pierre Vincent. La presse fait le tour d'inquiétants phénomènes. L'oisiveté, la drogue, la prostitution qui gagne les jeunes adultes, la hausse marquée du suicide. On y parle de la montée de l'individualisme et d'une situation qui risque de perdurer compte tenu du décalage entre le nombre de jeunes, 1 193 000 jeunes de 15 à 24 ans, et les perspectives économiques. Autre phénomène inédit propre à cette période, la stagflation, une combinaison de croissance faible et d'inflation élevée. Cette inflation galopante fait monter les taux d'intérêt jusqu'à près de 20 % rendant particulièrement difficile l'accès à la propriété. De toute façon, comme chacun le sait, les banques ne prêtent pas aux chômeurs. Alors, chanceux les boomers? Les premiers chômeurs instruits. Le malentendu provient de la méthodologie employée quand on a désigné comme appartenant à une même génération des individus nés entre 1946 et 1965. Cette catégorie est essentiellement fondée sur le critère démographique que reflète l'expression « baby boom ». Vieux et jeunes boomers sont donc irrémédiablement unis par ce douteux critère. Ils étaient très nombreux. Or, que peut-il y avoir en commun entre quelqu'un qui arrive sur le marché du travail en période de plein emploi et celui qui accède au début de la pire crise économique en un demi-siècle? Les plus jeunes boomers n'ont pas profité d'un vent en poupe comme les plus vieux, favorisés par l'exceptionnelle période de croissance économique appelée les Trente Glorieuses, période amorcée après la Seconde Guerre mondiale et terminée avec le premier choc pétrolier de 1973. Plutôt que de bénéficier du plein emploi, ils ont plutôt eu le douteux privilège d'être les premiers chômeurs instruits de l'histoire. Maintenant que les réseaux de l'éducation et des affaires sociales, ainsi que la fonction publique, sont à toute fin utiles, fermés aux nouveaux venus, où est-ce qu'il pourra bien aller, le diplômé en philosophie, en histoire, en géographie, en sciences politiques, en sciences sociales ou en sciences médiévales? Questionne un sociologue interviewé par Pierre Vincent dans la même série d'articles. Tout le contraire des plus vieux boomers qui, après l'université, pouvaient choisir leur emploi. Comme les jeunes diplômés d'aujourd'hui. « Bon Dieu, donne-moi une job », la célèbre chanson des colocs aurait pu être notre hymne, ce qui oblige à se rappeler que le regretté chanteur du groupe, Dédé Fortin, né en 1962, a connu, comme tant d'autres de notre génération, la fin tragique que l'on sait. Ce ne fut heureusement pas mon cas. Je suis plutôt retournée à l'université où, comme tant de vingtenaires des années 1980, je me suis instruit en attendant que la tempête passe. Et la tempête a duré longtemps. D'ailleurs, depuis cette lointaine époque, je n'ai encore jamais, mais jamais, rencontré quelqu'un de mon âge qui ait fait carrière dans l'enseignement. Privilégiez les boomers, disiez-vous? C'était Les jeunes boomers, très loin de la génération privilégiée, un texte de Marc Tremblay, paru le 16 décembre 2024 dans la presse.
Le livre en héritage. Un texte de Régent Bergeron, paru le 24 décembre 2024 dans la presse. À partir de souvenirs d'enfance, le philosophe Régent Bergeron rappelle la valeur unique du livre. Régent Bergeron est auteur de « Je veux être un esclave » et de « L'école amnésique » ou « Les enfants de Rousseau et d'Homère, la vie et rien d'autre ». J'ai toujours envié les personnes qui ont eu la chance de grandir dans une famille où les livres étaient abondants, variés et bien classés dans une belle et grande bibliothèque toute propre. Vous vous doutez bien que ce léger ressentiment vient du fait que j'ai passé mon enfance dans un environnement où les livres se faisaient plutôt rares. Mais ce n'était tout de même pas le désert. Il y avait cette pile de sélections de Reader's Digest que j'avais pris soin de ranger sur une étagère dans ma chambre juste au-dessus de mon lit. Ainsi, chaque soir avant de m'endormir, j'en feuilletais un, histoire de me cultiver un peu. Certaines rubriques me reviennent d'ailleurs en mémoire. « Enrichissez votre vocabulaire, rions un peu, et je suis le corps de Georges », une série de chroniques qui nous expliquait numéro après numéro le fonctionnement des différentes parties du corps humain. Le livre était donc une denrée rare à la maison. Ainsi, lorsqu'écolier j'avais une recherche à faire pour un devoir, il m'arrivait d'aller frapper chez les Drolettes pour leur demander la permission de fouiller dans leur encyclopédie Groslier, composée d'une vingtaine de gros volumes richement reliés et tous bien rangés par ordre alphabétique dans la bibliothèque de leur salon. Le simple fait d'accéder à ces trésors me donnait l'impression d'être important et plus intelligent. En consultant ces beaux livres, je me sentais comme éclairé par une lumière intérieure. En fait, c'est comme si mes voisins m'accordaient l'immense privilège de déposer mes lèvres sur le Saint Graal. D'ailleurs, lorsqu'à l'école notre maîtresse nous demandait de couvrir les différents manuels scolaires qu'on nous prêtait pour la durée de l'année scolaire, soyez certains que, connaissant la valeur et surtout la rareté de ces objets précieux, je prenais cette exigence très au sérieux. Dans un monde idéal, il aurait suffi d'aller acheter un rouleau de papier craft d'un beau brun soyeux pour mener rondement cette activité de bricolage. Mais, dans mon cas, il ne fallait pas y penser. Trop cher pour notre famille de 7 enfants. Alors, restait une solution souvent éprouvée par mon frère et mes 5 sœurs qui s'étaient frottées à ce défi bien avant moi. Il suffisait de me rendre à l'épicerie du coin afin de demander au boucher s'il aurait le cœur assez grand pour me donner quelques pieds de son papier rose dans lequel il emballait les pièces de viande qu'il découpait pour ses clients. Ma mère étant une habituée de cette épicerie, il aurait été bien mal avisé de me refuser cette petite offrande. Une courroie de transmission. Tout jeune, je n'étais évidemment pas conscient de toute la valeur symbolique que pouvait receler ce petit geste qui consistait à couvrir mes manuels scolaires. Protéger ainsi ces livres représentait en fait un acte de solidarité et une pensée à l'endroit de tous ceux qui viendraient après moi, qui se retrouveraient à ma place sur ces mêmes bancs d'école. Grâce à cet effort de conservation, eux aussi auraient la chance d'apprendre à lire, à mieux maîtriser leur langue et à s'abreuver à la source d'une multitude de savoirs. Protéger ces livres contre les aléas du temps était une marque de respect à leur endroit et prenait aussi les allures d'un acte de foi envers la civilisation. Qu'on se le dise, le livre est un objet de très haute technologie qu'on est trop souvent porté à mépriser par les temps qui courent. D'ailleurs, l'omniprésence des tablettes numériques aux effets déshumanisants dans le monde de l'éducation, ainsi que le gel des achats de livres dans les bibliothèques de nos établissements d'enseignement, afin d'épargner quelques dollars, demeure un vrai scandale à mes yeux. Une légende veut qu'un conseiller ait suggéré à Churchill de sabrer le budget de la culture afin de soutenir l'effort de guerre. Le vieux lion lui aurait répondu « Mais monsieur, si je fais ce que vous me demandez, alors pourquoi nous battons-nous ? » On pourrait répondre la même chose à ces comptables qui nous gouvernent, eux qui sont si prompts à parier des centaines de millions de dollars sur des projets de batterie presque morts-nés, alors qu'ils n'hésitent aucunement à réduire les budgets pour l'achat de livres, la francisation des nouveaux arrivants et la culture en général, trois missions qui sont pourtant existentielles pour l'avenir du Québec. Mais ne tombons pas dans la complainte. Célébrons plutôt le livre dans tout ce qu'il a de magique, en l'offrant à profusion à ceux qu'on aime, tout en faisant circuler, après les avoir lus, ceux que l'on aura reçus. Voilà une façon, comme une autre, de répandre la lumière sur une époque qui en a bien besoin. C'était « Le livre en héritage », un texte de Régent Bergeron, paru le 24 décembre 2024 dans « La Presse ».